tout de suite. À 10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Et la une de ce journal, ces énormes inondations dans le nord-est du Nigeria, un barrage a cédé en amont de la ville de Maïdougouri. Des inondations qui se multiplient dans la région et qui rappellent la catastrophe de Derna en Libye. Cela fait un an aujourd'hui que la ville a été inondée sous les eaux, provoquant des dizaines de milliers de disparitions. À suivre également un nouveau statut pour les magistrats du Mali et puis le procès de l'avocate Sonia Darmani en Tunisie. Audience reportée hier. Une saison des pluies particulièrement intense donc cette année, on le constate pour débuter, au Nigeria avec ce barrage qui a cédé en amont de la ville de Maïdougouri dans le nord-est du pays. C'était dans la nuit de dimanche à lundi, le bilan de l'Agence nationale de gestion des urgences fait état de plus de 150 000 personnes touchées au cours des trois derniers jours. L'eau a pris tout simplement tout le monde de court. Écoutez le témoignage de cet habitant de Maïdougouri.
C'était vraiment catastrophique. Et je peux dire que tous les ponts qui sont en ville, tout est inondé. Il ne reste qu'un seul pont, là où vraiment les gens circulent pour le moment pour entrer dans un autre côté de la ville. 2 mètres de hauteur, hein. Certains endroits, 3 mètres, je te dis, parce que ça avalait certains poteaux électriques. Pour le moment, bon, il y avait eu des secours, mais pas seulement en tant que tel. Parce qu'il y a certains gens, jusqu'à présent, ils sont toujours dans l'eau, plus loin de la ville, parce qu'il y a de certains endroits où les gens ne peuvent pas aller, ou la voiture. Parce que on ne sait pas s'il y a peut-être des carnivores quelque part et ils ne veulent pas vraiment ce qu'ils entrent dedans. Donc, c'est des camions, des bennes qui partaient prendre certains gens qui sont proches, certains gens qui se sont approchés de la route. C'est comme ça que les voitures, le secours vient vers eux, quoi.
Et voilà le témoignage d'un habitant de Maïdougouri. Des inondations sur place qui ont par ailleurs provoqué l'effondrement du mur d'enceinte d'une prison. Près de 200 prisonniers se sont évadés, dont des membres de Boko Haram. Le zoo de la ville alerte quant à lui sur l'évasion de crocodiles et de serpents rendus possibles par la montée des eaux. Il appelle la population à la prudence. Le lourd bilan des inondations en Guinée également. Tout le pays touché lui aussi par les fortes pluies depuis près d'un mois. 4 personnes sont mortes, 1 autre personne est portée disparue selon l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Près de 130 000 sinistrés seraient actuellement dans le besoin. Le bilan des inondations qui s'alourdit aussi dans le sud de l'Algérie. Plusieurs régions touchées et déjà 6 morts à déplorer depuis vendredi selon les chiffres de la protection civile publiés hier. Notons que certaines zones de l'extrême sud du Maroc ont été frappés depuis vendredi par un phénomène climatique similaire. Là-bas, on parle d'au moins 18 morts. Des crises qui rappellent de bien tristes souvenirs en Libye. 1 an cette nuit que la tempête Daniel a frappé le pays, entraînant dans son sillage une crise humanitaire colossale. Principalement dans la ville de Derna, dans l'Est, des milliers de personnes disparues, plus de 40 000 déplacées selon l'ONU. L'ampleur des destructions et surtout le bilan humain, le nombre de morts reste incertain à ce jour. Mais en tout cas, Ouda Ibrahim, cette catastrophe de Derna avait mis en lumière la vétusté des infrastructures et l'étendue de la corruption dans un pays, la Libye, pourtant riche en pétrole.
1 an après la catastrophe, l'enquête judiciaire piétine. Le budget alloué à l'entretien de 2 barrages dominant la ville a été détourné, mais le procureur général libyen, en établissant la chaîne de responsabilité, n'est jamais remonté plus haut que le maire de Derna. 12 fonctionnaires travaillant à la mairie de la ville, à la structure de gestion de l'eau et des barrages ou à la banque centrale ont été jugés et écopent depuis janvier dernier de peines de prison allant de 9 à 27 ans. Aucun bilan officiel de victimes n'a été établie. Les autorités de l'Est libyen ont voulu minimiser les chiffres. Près de 5000 corps ont été identifiés et enterrés. 10 000 personnes manquent toujours à l'appel. Selon les estimations des experts libyens, le bilan pourrait en fait se situer entre 14 000 et 24 000 morts. Le chef du Parlement, Aguila Saleh, a alloué en février dernier au fonds de reconstruction de Derna l'équivalent en dinars de 2 milliards d'euros. Ce fonds a été confié à Belkacem, l'un des fils du maréchal Khalifa Haftar, non impliqué, lui, dans des activités militaires comme de ses frères.
Les explications d'Ouda Ibrahim et cette catastrophe il y a un an à Derna. On en parlait ce matin également avec notre invité Virginie Colombier, docteur en sciences politiques à l'université Louis de Rome. Entretien à réécouter bien sûr sur internet. Les armes qui s'expriment toujours dans l'est de la RDC. Des nouveaux combats signalés depuis plusieurs jours. Hier encore sur le territoire de Massissi. Ils mettent aux prises les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda au Wazalendo. Les milices locales alliées quant à elles de l'armée congolaise. Ces affrontements violents ont provoqué de nouveaux déplacements de population. La RDC et ses deux informations, en bref encore, la libération de l'ex-ministre de la Santé, Oli Ilunga, condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds destiné à la lutte contre le virus Ebola. Il a purgé l'ensemble de sa peine, indique son avocat. La RDC, où les vaccins contre la Mpox arrivent au compte-gouttes, après les 200 000 doses de l'Union européenne envoyées la semaine dernière, 50 000 doses données cette fois par les États-Unis ont atterri hier à Kinshasa. Un mot également sur cette épidémie de dengue inédite en Centrafrique. Alerte du gouvernement hier, 13 cas déjà détectés dans la capitale Bangui et confirmés par l'Institut Pasteur. Un nouveau statut pour les magistrats du Mali, instauré par une ordonnance inscrite au journal officiel du 30 août, diffusé lundi. Un texte adopté en Conseil des ministres, mais qui doit encore être ratifié par le Conseil national de transition. Alors, dans le fond, pas de changement majeur pour les droits et les obligations des magistrats maliens, mais un encadrement renforcé de leur liberté d'expression, ce qui soulève certaines inquiétudes dans un contexte de transition où l'indépendance de la justice est largement mise à l'épreuve, David Bachet.
Parmi les principales nouveautés, un abaissement du niveau requis. Il fallait jusqu'à présent une maîtrise de droit pour passer le concours de la magistrature. Dorénavant, une simple licence suffira. La section des comptes de la Cour suprême devient une Cour des comptes à part entière pour répondre aux exigences de l'UMOA. Il y a un an, l'ancien premier avocat à la Cour suprême du Mali, Cheikh Mohamed Chérif Koné, était radié de la magistrature pour avoir estimé que la justice malienne était manipulée par les autorités de transition. Des déclarations faites dans le cadre de ces mandats syndicaux. Dans ce contexte, une nouvelle disposition interpelle, selon laquelle les magistrats peuvent jouir des mêmes libertés publiques que tout citoyen malien, syndical ou d'expression notamment, mais qu'ils doivent les exercer dans le respect de l'autorité de l'État et de l'ordre public. Oumar Berthé, avocat malien et chercheur en politique et droit public.
Ces conditions sont très larges, exprimées de manière vague, ce qui est susceptible d'exposer les magistrats. À quel stade on considérait que le magistrat aurait franchi la ligne qui remettrait en cause l'autorité de l'État? Ou à quel stade la participation des magistrats dans une association apolitique ou syndicale pourrait s'assimiler à un trouble à l'ordre public? C'est la grande question. Ça risque de peser sur eux.
Depuis le début de la période de transition au Mali, il y a 4 ans, d'innombrables procédures judiciaires ont été lancées contre des personnes ayant critiqué la gestion des autorités en place, généralement pour opposition à l'autorité légitime ou atteinte au crédit de l'État.
David Bachet, justice en Tunisie, avec cette audience en appel dans le dossier Sonia Darmani qui a été suspendue hier. Sonia Darmani, cette avocate arrêtée en mai dernier par des hommes en cagoule, en direct devant les caméras de nos collègues de France 24. Eh bien, c'est finalement aujourd'hui qu'on devrait savoir si le procès va bien se tenir ou s'il va être reporté. Sonia Darmani est en tout cas poursuivie pour avoir tenu des propos ironiques en lien avec la situation que traverse son pays. Elle encourt jusqu'à 5 ans de prison, mais de nombreuses ONG dénoncent cette situation. Un rassemblement de soutien était ainsi organisé hier devant le tribunal de première instance de Tunis. Amira Souilem était sur place pour RFI.
Un café et une cigarette à la main, Mehdi Dermani, frère de Sonia Dermani, cache mal sa fébrilité.
Il y a une grande peur qui nous prend dans le ventre, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un petit peu d'espoir.
Sa sœur Ramla, elle, affiche un grand sourire contrebalancé par des yeux embués. 10 heures d'attente dans les méandres du tribunal et une audience suspendue. Ce soir encore, Sonia Dermani y passera la nuit en prison, la même où elle a été victime de mauvais traitements selon sa sœur cadette.
Elle a subi une fouille, ce qu'ils appellent une fouille à nu. Elle a dû se mettre à quatre pattes, dans différentes positions. Dans un état de droit, ce ne sont pas des choses qui doivent arriver.
Hier, Sonia Dermani a reçu le soutien d'une quinzaine d'avocats français venus spécialement à Tunis pour assister à l'audience. Parmi eux, Maître Hélène Lodic Baron, vice-présidente du Conseil national des barreaux.
Le cas de Sonia Darmani qui est arrêté dans la maison d'avocat, c'est quelque chose aussi d'inacceptable. On est venu pour ce procès, mais de manière générale, on profite de ce déplacement pour apporter notre soutien à tous les avocats de Tunisie.
Comme Sonia Darmani, Des dizaines de personnes ont été arrêtées suite à des propos en lien avec la situation politique dans leur pays. Amira Suilem, Tunis, RFI.
Tunis, où il est 9h40, 10h40 ici à Paris. On retrouve bien sûr Juan Gomez.
Merci.